Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Hier soir, Jérôme Powell a parlé et tout le monde était pendu à ses lèvres, espérant qu'il allait nous confirmer ses plans pour les taux jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Et puis, il n'a strictement rien dit, mais rien du tout. Du coup, les marchés sont victimes de narcolepsie et il ne se passe plus rien. C'est le calme plat. Depuis la première semaine du mois d'avril, le S&P 500 a repris 40%, l'or a explosé, le Bitcoin est remonté au plus haut de tous les temps et les semi-conducteurs défient la gravité. Mais là, tout de suite, on dirait qu'on n'a plus envie de rien. Le shutdown est toujours là. La saison des résultats commence la semaine prochaine. Autant dormir en attendant. Alors, je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête et s'il faut s'en inquiéter, mais j'ai rarement trouvé aussi peu de choses à raconter. Hier, les marchés n'ont pratiquement rien fait et ça n'est pas les micro-variations sur les indices au travers de la planète qui vont dire le contraire. C'était la journée de l'emmerdement maximum. La volatilité est dans le coma, les marchés n'ont peur de rien, le FOMO est toujours présent, les gens n'ont jamais été aussi bullish pour l'avenir et le thème de l'IA est toujours aussi porteur. Mais globalement, le marché se comportait comme s'il était épuisé de ressasser encore et toujours les mêmes choses, encore et encore, et l'absence de contenu dans le discours de Powell aurait été le coup de grâce. Je vous le répète tous les jours, les USA sont toujours sous shutdown et c'est le 9e ou 10e jour. Aujourd'hui, il n'y aura pas de chiffre de l'emploi, toujours pas. Et hier, le discours de Powell était censé être le seul truc à peu près intéressant au niveau de l'économie. Qui sait ? Peut-être que lui avait des informations que nous n'avons pas. Que nenni, si je devais imaginer la chose. Powell, c'était un boxeur debout sur le ring avec un jeu de jambes de folie et qui passe son temps à danser autour de l'adversaire sans jamais balancer un seul coup. Beaucoup de mouvements, mais peu de décisionnels. Il a surtout insisté sur les banques locales, dont tout le monde se fout tant qu'elles ne sont pas en faillite, mais à aucun moment, il n'a voulu toucher à la mythique, mystique des taux d'intérêt. Alors, que nous, on n'était venus que pour ça. Selon les experts, son silence est stratégique, ça lui permet de ne pas surprendre les marchés, ça laisse de la flexibilité et ça évite de s'engager dans des promesses prématurées. Bon, en même temps, le gars est à la tête de la Fed la plus déchirée de l'histoire où personne n'est d'accord avec personne. Et j'ai l'impression qu'à l'image du marché, il est un peu fatigué et qu'il ferait bien autre chose de sa vie. Actuellement, les marchés seront livrés à leurs propres interprétations et on mise très très fort sur la double baisse des taux d'ici Noël. Aux dernières nouvelles, Powell était data dependent. Le problème, c'est comme il n'y a plus de data, il est dépendant de quoi du coup ? La séance aura donc été loin d'être passionnante, mais les intervenants se sont quand même offert un galop d'échauffement avant le coup d'envoi de la saison des trimestriels qui est agendée pour la semaine prochaine. En guise de test pour essuyer les plâtres, nous avons eu des publications de Delta et de Pepsi. Delta plane à haute altitude, la compagnie explose les attentes au troisième trimestre avec un bénéfice par action de 1,71$ contre 1,53$ attendu et un chiffre d'affaires en hausse de 4,1% à 15,2 milliards. Pour les trois derniers mois de l'année, Delta vise encore plus haut, 1,60 à 1,90 par action, au-dessus du consensus avec des ventes en progression de 2 à 4%. Les réservations s'accélèrent partout, le trafic premium cartonne et même le fret explose de près de 20%. Le titre terminé en hausse de plus de 4% et Delta finit 2025 pied au plancher et vise 2026 en mode croissance, plus marge, plus profit. Chez Pepsi, c'était pas mal aussi. Les résultats étaient meilleurs que prévu et ils en ont profité pour relever leurs prévisions de bénéfices pour l'année. Les vents contraires des devises soufflent moins fort. Le chiffre d'affaires grimpe à 23,4 milliards et plus 1,3% en organique. Et le BPA atteint 2,29 au-dessus des attentes. Les volumes baissent un peu, mais les hausses de prix compensent leur largement. Preuve que Pepsi sait encore vendre du sucre à prix d'or. En bref, résilience, pricing power, et un CFO tout neuf, tout va mieux que prévu chez Pepsi. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que si ces deux publications sont l'image de ce qui nous attend ces 6 prochaines semaines, ça va être méga facile. La bourse de Paris a légèrement reculé de 0,23% dans une séance calme marquée par le retour au calme politique. Alors, oui, ils n'ont toujours pas de Premier ministre, mais ça devrait être plié ce soir. On se réjouit déjà de voir quel type de débile Macron va nous sortir cette fois. La dissolution ne semble plus être une option. Quant à la démission, ça ne l'a jamais été. Mais peu importe, on attend de voir qui est l'animal miracle qui va réussir à poser un budget qui tient la route sans se faire censurer pendant le week-end. Pour le moment, les marchés semblent vouloir y croire. Comme quoi, il faut vraiment être optimiste, parce que quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Le spread franco-allemand s'est détendu, 0,82% contre 0,87% auparavant, et les taux français à 10 ans restent sages à 3,52%. C'est impressionnant de résilience, et je suis stupéfait de voir que l'on ose croire encore à une once de stabilité quand on voit la liste de tocards qui sont proposés comme Premier ministre. Il y a même des noms qui sont apparus dans les papables, je pensais qu'ils étaient morts. Je serais Macron, je nommerais Sarkozy, comme ça il aura peut-être le temps de gouverner 3 jours avant de finir en tôle. Et puis ça aurait le mérite d'officialiser le fait qu'il prend les Français pour des cons. En conclusion, on retiendra que la séance en Europe n'était pas plus excitante que la version américaine. Et maintenant, on n'attend plus que quelque chose se passe. Mais alors, quoi ? Les bourses asiatiques étaient en baisse ce vendredi, plombées par des prises de bénéfices sur la tech. Le Nikkei japonais chute de 1%, rattrapé par une inflation plus forte que prévue et la perspective de nouvelles hausses des taux de la BOJ, ce qui refroidit l'ambiance à Tokyo. On notera quand même que c'est quand même fabuleux, parce que ça fait une semaine qu'on est bullish à Tokyo en partant du principe que la BOJ ne montre pas les taux, et il suffit d'un chiffre pour tenir le narratif inverse exactement. En Chine et à Hong Kong, les valeurs techno et biotech ont décroché suite à de nouvelles restrictions américaines. Shanghai recule de 0,5% et Hong Kong de 1%. Pendant ce temps-là, la Corée du Sud a explosé les compteurs. Le Kospi a bondi de 1,5% à un record historique porté par la folie des puces après les contrats géants de Samsung et SK Hynix avec OpenAI. Et puis, il y a une nouvelle qui a été annoncée. La Chine impose désormais une licence obligatoire pour exporter tout produit contenant plus de 0,1% de terres rares extraites ou traitées sur son sol. Officiellement, c'est une mesure technique. En réalité, c'est une arme géopolitique. Pékin rappelle qu'il contrôle la matière première indispensable à toute la tech mondiale. Batteries, semi-conducteurs, véhicules électriques et armements. Le timing est parfait. En pleine guerre commerciale, Xi Jinping remet la pression sur Washington et l'Europe. En clair, le monde veut se découpler, mais c'est toujours Pékin qui a la main. Attention quand même au retour de manivelle made in Trump. Le pétrole est à 61,48, l'or repasse sous les 4000, le bitcoin est à 121 500 et le rendement du 10 ans américain est à 4,13. Comme je vous l'ai dit, c'est très calme. C'est un peu trop calme et je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme, comme disait le numéro bis. Mais néanmoins, il se passe des trucs, comme par exemple Ferrari qui passe à l'électrique et qui se prend les pieds dans le câble de chargement. Pourtant, hier, c'était censé être le moment de gloire. Ferrari, le temple de la combustion et du V12, dévoilait sa première voiture 100% électrique, la Electrica. Super original comme nom d'ailleurs. Mais dans la foulée, le titre a plongé de 16%. Pire journée de leur histoire. Mis à part quelques week-ends de Grand Prix où le tracteur qui leur sert de voiture de course n'a pas fonctionné comme prévu. Mais bon, le problème, ça n'était pas la voiture, c'était les prévisions. Ferrari a refroidi tout le monde avec un plan 2030 qui manque cruellement de chevaux sous le capot. 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA de 3,6 milliards et seulement 20% de modèles électriques au lieu des 40% promis. Autrement dit, Maranello lève le pied sur l'électrique, officiellement pour s'adapter aux clients, officieusement parce que les fans veulent sentir l'essence et voir un V12 et pas rouler avec l'impression de chevaucher un sèche-cheveux. Après, on peut parler de la voiture qu'ils ont présentée, 1000 chevaux et des poussières, 530 km d'autonomie, 300 km en pointe et un système audio qui imite le bruit du V12. Un collectionneur disait hier, les faux sons, c'est kitsch, on dirait un gadget. En gros, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et on l'a vu dans le camp adverse, c'est la même galère. Porsche enchaîne les profit warnings et botte en touche sur l'électrique, Lamborghini et McLaren repoussent leur modèle électrique, faute de clients. Comme quoi, les gens qui sont prêts à mettre un demi-million pour une caisse, ils veulent du cambouis, de l'essence et un moteur qui fait vroom vroom, pas bzzz. Peu importe ce que pense Bruxelles. Même le chancelier allemand ne veut plus de voiture électrique. Bref, hier, le titre s'est fait défoncer. Mais lorsqu'ils sortiront leur prochain modèle avec un vrai moteur, on peut parier que la liste d'attente sera toujours la même et que ça sera toujours aussi compliqué d'en avoir une. Enzo Ferrari disait « Toujours livrer une voiture de moins que la demande ». Ça devrait continuer à fonctionner, surtout si on laisse tomber l'électrique. L'autre sujet du matin qui est apparu dans le Barron's, c'est l'interrogation au sujet du quantum computing. En effet, les boîtes du secteur ont quadruplé en un an pour un chiffre d'affaires cumulé de 26 millions de dollars. En face, une valorisation de 55 milliards, soit plus que General Motors, sauf que GM, ils vendent pour des milliards et des milliards de bagnoles. Bref, les mecs vendent du rêve, mais pas encore des produits concrets. Alors oui, quand ça fonctionnera, on pourra voyager dans le temps et connaître les chiffres de l'euro-million de la semaine prochaine. Mais quand même, pour le moment, les stars du moment s'appellent Rigetti, Yonkyu, D-Wave et Quantum Computing. Elles promettent la révolution pour 2030, quand leurs machines arrêteront de planter parce qu'un moucheron s'est approché d'un peu trop près. Alors les analystes sont tous déjà sur le coup et visiblement, ils ne sont pas tous d'accord. Sur les derniers rapports, Bank of America voit un marché à 2000 milliards dans 10 ans, mais McKinsey envisage plutôt 70 milliards. Autrement dit, la marge entre la conquête de l'univers et la start-up qui galère à payer l'électricité. Mais à titre d'exemple, et sans se projeter dans 10 ans, aujourd'hui, Rigetti vaut 14 milliards pour 8 millions de revenus. Même les NFT avaient plus de logique. Mais tant que la mode dure, les investisseurs continuent d'empiler des billets, persuadés d'avoir trouvé le prochain Nvidia. Le problème, c'est que quand tout le monde y croit, même ton chauffeur Uber, c'est souvent la fin du rêve et le début de la bulle. Et cette fois, la bulle quantique pourrait exploser plus vite qu'un qubit mal refroidi. Pour le reste, comme nous sommes toujours sous shutdown, il va falloir se contenter de ce qu'il y a comme chiffre indépendant de l'État. Et aujourd'hui, nous aurons droit au chiffre de la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan. Tout le monde place ses espoirs là-dedans. Et pourtant, quand on connaît un peu la structure de ce sondage à deux balles, on comprend assez vite que ça ne sert à rien et que ça ne veut absolument rien dire. Mais comme c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, on va faire avec. Et puis en Suisse, il y a bien le SECO qui va sortir, mais pas sûr que ce soit plus excitant. En attendant, la saison des résultats trimestriels, reposez-vous bien ce week-end. Et nous, on se revoit lundi pour décrypter le nouveau gouvernement français. Ça nous donnera au moins de quoi commencer la semaine de bonne humeur. Excellent week-end et à lundi.